Avec Gérard Blanchard, typographe, Marcel Souchier, vice-président du Centre de recherche et d'enseignement de la communication par l'informatique, et Najin Oudin Bamate, qui pendant 30 ans fut conseiller spécial pour la culture et la communication à l'UNESCO. Nous disions, M. Bamat, et qu'il fallait, pour analyser avec le plus de sérieux, de rigueur possible, la calligraphie arabe, il fallait passer à travers le tamis de six points. Je ne vais pas vous les énumérer, je vais vous en laisser le soin.
Qu'il y en ait six, plus ou moins, je l'ignore, mais j'ai tenté d'en retenir six qui, prises ensemble, me paraissent caractériser assez bien le style et la fonction de l'arabesque par rapport à l'ensemble de la culture musulmane. La calligraphie islamique me paraît être un point de rencontre, une mise en union, et c'est en ça d'ailleurs qu'il fait penser au rôle actuel de la typographie, qui est communication, qui est mise en union. La calligraphie est donc la mise en union, l'intégration, et je dirais plus, et là je rentre dans le terrain musulman, la réduction à l'unité. De ramener à l'unité des éléments suivants. Tout d'abord, les peuples. Parce que l'écriture calligraphique, qui est l'écriture arabe, qui a connu des styles différents, mais dont tous les styles sont utilisables à tout moment aujourd'hui, dont les styles sont simultanés. Tous ces styles sont à la fois historiques, mais immédiatement disponibles. Ils sont utilisés par des berbères, ils sont utilisés par des turcs, ils l'étaient, ils le sont, et ils sont utilisés par des Iraniens,
par
des
langages universels.
C'est un langage universel. Et c'est dans cela aussi qu'il se rapproche la typographie. Donc c'est un langage universel, vous avez dit le mot, et qui est commun à tous les hommes qui, depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique, appartiennent à ceci. Je dirais même que la calligraphie est le sceau, l'emblème de cet art, qui est très diversifié, mais partout vous trouvez en évidence cet élément calligraphique. Donc, union des peuples. Premier point.
Et ensuite, elle a cette particularité, par rapport aux autres écritures universelles, d'être une écriture sacrée.
Ceci est très important. Et on ne sait plus aujourd'hui exactement ce que c'est que le sacré et le profane. Tout devient à la fois sacré et profane, profané. Et par exemple, l'impossibilité pour celui qui n'est pas musulman d'entrer à la Mecque, est considéré en général comme du fanatisme. Or, on ne visite pas la Mecque avec un appareil photographique, on ne va pas en pèlerinage dans le même état d'esprit purement esthétique ou de repos qu'on découvre un touriste. C'est l'accomplissement d'un vœu, c'est la mise vers l'extérieur d'un vœu intérieur, comme disait l'un de mes maîtres, Massignon, bien que mon éducation, c'est une éducation traditionnelle musulmane, que j'appartiens à une musulmane, mais disons au point de vue universitaire, j'avais travaillé avec Messignon, et il me semble que le premier point qui soit le témoignage de cette communauté qui se veut une, qui veut sa cohésion à Tombouctou comme à Jakarta, extérieurement, c'est cette universalité de la calligraphie. Deuxième point, c'est la matière. La calligraphie unit les matières différentes. Comment et pourquoi? Parce que la calligraphie se retrouve en architecture, vous avez des inscriptions sur les architectures, mais vous la retrouvez, et c'est la même calligraphie, sur le papier, bien sûr, le parchemin, la peau de daim, que sais-je, robe de quelque animal, d'un nègre, que sais-je. Vous la retrouvez aussi tissée dans le tapis, dans les tissus, dans le bronze, dans le cuivre. Donc, les matières sont très différentes. Et il ne faut pas croire que la calligraphie soit réservée à des matières nobles. Elle vient aussi sur la cruche qu'on porte et qu'on casse et qui transporte l'eau. Et ceci rejoint exactement ce que nous disions la dernière fois sur l'absence de distance entre l'artiste et l'artisan. Il n'y a pas en islam, d'une part, un artiste de chevalet, il commence à y en avoir, et d'autre part, l'ouvrier qui assemble sa mosaïque. En réalité, les maîtres d'œuvre faisaient leur travail du mieux de leur conscience, mais ils étaient ni artistes ni artisans, ils étaient plutôt artisans qu'artistes, il fallait poser le mot.
À donc, l'artisan est dans la matière. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est encore pour vous... pour refaire référence à ce que vous nous avez dit ce matin et qui, je crois, nous a tous beaucoup frappés, vous nous avez incité à réfléchir à l'opinion dans laquelle un musulman tient une église ou une cathédrale catholique, romaine.
Oui.
Et vous avez dit que pour un arabe, un musulman, c'est une architecture sans écriture et donc une maison vide.
Oui, ou en tout cas, sinon vide, du moins incomplète.
C'est très saisissant.
D'autre part, vous, quand vous parlez de calligraphie et que vous l'opposez à la typographie,
oui,
par exemple, il semble bien que les deux choses mises en rapport ne soient pas tout à fait de même valeur. Et peut-être que ce que nous recherchons à Fontevrault, c'est comment la reconsidération de la calligraphie pourrait peut-être nous aider à aller plus loin dans la typographie à une époque où ce sont les écrans cathodiques, les mémoires d'ordinateur qui la prennent en compte. Donc que cette espèce de mouvement intérieur que vous disiez, etc., et qui se dit à travers la calligraphie et la calligraphie portée comme écriture sacrée à l'intérieur même de la mosquée, eh bien il y ait là peut-être une leçon, en tout cas quelque chose qui nous soit proche à travers une tradition peut-être bien oubliée dans notre Occident chrétien, qui pourtant aussi a fait un certain nombre d'inscriptions dans les églises et sur les cathédrales.
Il faut dire qu'il y a un élément commun quand même, qui saute aux yeux, me semble-t-il, entre la calligraphie traditionnelle islamique et la typographie la plus moderne, c'est que cette notion commune, c'est la communication. Dans l'un et dans l'autre, il s'agit d'un langage, il s'agit d'une sémiotique. Il s'agit d'un ensemble de signes qui parlent, qui s'agissent dans cela que la calligraphie musulmane se distingue, disons, de l'art gestuel occidental moderne. Et la typographie, elle aussi, veste que ça. Il y a un autre point qui est commun, me semble-t-il, c'est qu'à la différence de l'art, la question de cherté ou de pauvreté ne se pose moins pour la typographie. La typographie s'applique tout aussi bien au journal, au papier journal, qu'à des tirages de luxe. De même que la calligraphie peut s'imprimer sur une cruche comme sur du cristal de roche ou sur une mosaïque. Je crois donc que le fait que ce soit en eux-mêmes des langages, indifférents à leur support et instruments de communication, avant tout, est un trait commun. Mais peut-être que la typographie peut se charger de valeurs qui existaient dans la calligraphie et que nous avons essayé d'écrire. Je crois que nous avons touché deux d'entre eux, n'est-ce pas? Que cette calligraphie met en union les peuples et qu'elle met en union les matières. Le troisième élément, c'est peut-être le temps. C'est une...
La calligraphie opère la mise en unité du temps.
Oui. Parce que nous sommes obsédés par le temps qui coule, par l'histoire. Et on a appliqué à l'étude de l'art musulman des critères historicistes, qui sont les critères, en gros, du 19e siècle et du 20e jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une espèce de fétichisme de l'histoire, que tout devait avoir un déroulement, et normalement un déroulement vers le mieux, un déroulement progressiste. Or, la calligraphie est essentiellement la même aujourd'hui qu'elle était au 7e siècle, et ce sera la même calligraphie, finalement, dans les machines à écrire et les ordinateurs. Et vous avez une multiplicité de moyens de vous exprimer qui sont simultanément à votre disposition. Parce qu'aujourd'hui, on peut employer encore, et on emploie en fait, des styles calligraphiques. Ils ont le koufique, qui existait déjà au début de l'islam. Et c'est en ce sens que la notion du temps que porte avec elle, la culture musulmane, l'impéphysique musulmane, qui privilégie l'instant contre la durée historique, est traduit dans la calligraphie.
Vous disiez, le moment de la création se produit à chaque instant. La création n'est pas bloquée dans un moment. Le temps de la transcendance est le temps du quotidien.
Maintenant, pour le quatrième, vous semblez rappeler beaucoup mieux que moi ce que je vais dire, le quatrième point, je vais le changer un peu. J'avais parlé de l'artisanat, mais je crois qu'il y a un point qui est important, et je vais le loger ici, c'est que l'arabesque musulmane est la limite, le point limite, entre la chose mentale, entre l'intellect, et la chose manuelle, la chose esprit. Levinci a dit que la peinture était cosa mentale. Et il y a un mot de Baudelaire disant dans l'une de ses fusées que l'arabesque est l'art le plus spirituel de tous. Or, il me semble que l'arabesque est juste à moitié chemin. Je vais l'illustrer par des comparaisons avec la calligraphie en Chine et la calligraphie, ou plutôt pas la calligraphie, la peinture abstraite en Occident. En Chine, je m'y suis essayé maladroitement. Le coup est porté vivement avec un soin très souple avec le pinceau et porte tout au poids du corps. Donc, l'idéogramme chinois est un idéogramme vital, souple, produit par un coup bref et violent qui met en jeu le corps
tout entier.
Alors que, et vous l'avez par exemple si vous regardez le film sur Pollock qui est assez célèbre, vous avez un jour, on tourne autour de la toile et on fait une espèce de danse autour de la toile. En islam, si vous regardez le calligraphe, et vous aurez, il y a des calligraphes musulmans qui sont présents ici à Porto, le calligraphe musulman, lui, au contraire, il est assis et il essaye de séparer autant que possible son activité corporelle de la naissance de la ligne calligraphique. Il arrive même de se bander la main et l'emploie un instrument dur, la plume, le qalam, opposé au pinceau chinois ou japonais.
On
son poignet ne bouge pas.
Quand Ibn Mukla
a eu les mains coupées,
on lui a fixé au moignon un pinceau, un kalam, et qu'avec cet objet, il a finalement continué
C'est une très belle histoire, c'est-à-dire que l'intégrité du corps joue un rôle secondaire. Ce qui est essentiel, c'est la pensée, et il n'y a pas d'intermédiaire entre la pensée et l'arabesque. C'est en cela que l'arabesque est transcendantale. Et donc, on peut avoir les mains coupées, les moignons coupés, mais on peut quand même écrire, s'exprimer. Ça, c'est, je pense, l'autre caractéristique de l'arabesque. Et je viendrai peut-être maintenant à une cinquième caractéristique, c'est que l'arabesque se trouve être également la mise en unité ou l'intégration du spirituel et du matériel. Et là, nous sommes de nouveau dans la métaphysique et de nouveau dans la culture islamique, donc dans notre thème. Pourquoi? Parce que la calligraphie ressemble beaucoup à la profession de foi de l'islam et ressemble à la psalmodie aussi. Elle ressemble à la profession de foi de l'islam, oui, parce que la profession de foi de l'islam comporte deux éléments. On dit rien n'est réel, il n'y a pas de Dieu, c'est la partie négative, et sur ce qu'on vient de détruire, on ajoute mais il y a Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on vient de nier sous une espèce disjointe se trouve rétabli sous l'espèce d'unité. L'arabesque accomplit le même phénomène. Elle commence à dire que rien n'est parce que les fluidités, les ductus, est tracé, mais en même temps parce qu'elle est construite sur des rapports algébriques ou géométriques plutôt, stables, le triangle, le pentagone, en général l'impair, elle a cette netteté, cette rigueur du chiffre. Mais du chiffre qualitatif, pas du chiffre math, du chiffre quantitatif. Et en ce sens, l'arabesque se trouve construite sur de la géométrie, mais c'est en même temps une libre trajectoire, un parcours, un mouvement qui fuse. C'est donc dans un seul tracé, dans une seule ligne, l'union du matériel et du spirituel.
Je voudrais à ce sujet reprendre un petit point. Vous me disiez hors micro que vous aviez connu René Guénon. Mmh. Et René Guénon, dans un article, parle de l'alphabet arabe, alphabet chiffré. Mmh. Au même titre, au fond, que les séphirotes. Mmh. Il y aurait un arbre de séphirotes arabes.
Je crois qu'il y a si toute une tradition, mais où il y a toute une tradition, qui est la tradition aussi pythagoricienne, d'une mathématique qualitative où le chiffre rejoint la lettre. Et où la lettre a une valeur numérique, et où même le mouvement, j'ai dit ce matin, commence dans cette tradition mystique musulmane, le corps décrit le nom divin dans la prière. Donc, il y a un rapprochement entre l'opération géométrique, l'opération linguistique, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écriture, mais de verbes, de langage, et vous retrouvez la même chose, d'ailleurs dans la Kabbale, vous retrouvez la même chose dans la tradition mystique musulmane, et dans l'arabesque, vous la retrouvez aussi, elle est employée par les compagnons et par les maîtres d'œuvre. Et peut-être pour terminer, je toucherai le sixième point, qui est le rapprochement avec le rythme et avec la musique. La musique orientale est une musique qui n'est pas symphonique, qui est pauvre en accords, qui est uniquement lit, tracé comme l'arabesque. Donc il y a juste, et puis elle est répétitive comme l'arabesque, qui ne se tape sur elle-même que pour reprendre et continuer. Elle paraît monotone, mais il y a tout juste assez de sons pour faire vibrer le silence, comme dans l'arabesque, il y a tout juste assez d'épaisseur de tracé pour faire vibrer l'espace. Et l'essentiel se passe dans l'âme de celui qui regarde. Donc une sorte d'unité, qui est une unité qui intègre l'homme, s'oppose à l'unité de composition qui est celle de l'art classique, à la post-renaissant, où un bras d'angelot répond à une tenture. Donc il y a une unité de composition. Là, cette unité est impossible à saisir, elle sourd à l'intérieur de l'arabesque, elle se trouve partout et nulle part, parce qu'elle vient de ces rapports géométriques qui sont barrés, qui sont gommés. Et pour terminer, il y a l'histoire que Massignon aimait raconter, et qui résume l'attitude de l'islam devant son art, et qui est la suivante. Un maître passait avec son disciple devant un jardin et on entend une flûte qui résonne. Le jeune homme lui demande qu'est-ce que c'est. Le maître lui répond, c'est Satan qui pleure devant la beauté du monde. C'est Satan qui pleure devant la beauté du monde car Satan est considéré là comme l'ange déchu. Ce n'est pas avant tout le tentateur, ce n'est pas celui du péché, c'est l'ange déchu. Et donc, c'est l'homme qui, voyant la beauté du monde, pleure. Et vous savez qu'il y a une règle commune en musique, dans la cantillation du chant grégorien avant Solène, dans la cantillation du cantor et dans l'appel du muezzin et dans la psalmodie musulmane, qu'il faut que la musique, que le chant, passe, vienne d'en haut en bas, passe par le cerveau, passe par le nez, d'où le son un peu nasillard du chant, et ne soit pas, excusez-moi du mot, une éructation qui soit du bel canto qui part du plexus solaire ou de l'estomac. Donc, en arabesque comme en musique, l'important c'est d'intégrer l'unité et il y a juste assez de vibrations de l'espace. L'espace est suffisamment, tout juste assez dérangé par l'arabesque comme la psalmodie vient faire vibrer l'air. Et on dit une chose qui est très fausse, que l'art musulman a le horror vacui, qui est l'horreur du vide. En réalité, même quand il est surchargé, même quand il y a beaucoup de couleurs, même quand il y a beaucoup de formes, ce qui est fondamental à l'islam, c'est cette unité, mais unité non pas de composition, mais interne, et surtout unité interne à celui qui la regarde. Parce que celui qui est visé, ce n'est pas l'œuvre d'art en elle-même séparée par l'homme, c'est l'œuvre d'art regardée par un homme. Et l'unité, elle est recréée dans l'esprit et dans l'âme de celui qui regarde. Elle n'est pas tant dans le produit que dans le sujet. Et là encore, l'esthétique musulmane rejoint l'éthique, rejoint la morale et rejoint la métaphysique. Il n'y a pas d'art sans un changement moral, une métanoïa, une conversion sur lui-même de l'homme.
Je voulais, pour finir, vous poser une dernière question. Vous avez, ce matin, dans votre exposé qui nous a tous bouleversés, il faut bien le dire, fait allusion à un point. C'est en fait ce que cette calligraphie arabe aurait de commun avec la plus vieille écriture de l'homme, du néolithique. À ce sujet, peut-être que vous connaissez le texte de Bataille sur les graffitis des enfants assyriens, dans lequel Georges Bataille explique que l'écriture de ces graffitis, qui se produit souvent sur les lieux sacrés, sur les murs des temples, des maisons sacrées, sanctifiées, est une revendication de leur corps et de leur désir. Bataille explique même que quand ces enfants ont procédé à ces marques, à ces traces de leurs doigts sur les murs, ils se font vertement gourmandés par leur mère, mais ces traces, dit-il, sont une revendication du désir amoureux de l'éveil de ces enfants à la sexualité. Alors, ma question est la suivante. Quelle place voyez-vous que le désir a dans la calligraphie?
Vous avez des souvenirs, parce que j'ai aussi connu Georges Bataille, j'étais à Venise. Je n'ai pas posé de petites questions. Hein. Alors, je crois que la vie est faite de toutes les occasions manquées, les questions qu'on n'a pas posées. Mais il y a une chose que je retiens, et qui est commune à Bataille et à la calligraphie, c'est que, à la suite de mon exposé, les questions ont amené un certain écartèlement entre, d'une part, l'homme néolithique et, d'autre part, l'ordinateur. Et on a senti que la calligraphie touchait aussi bien à l'homme néolithique qu'à l'ordinateur.
Absolument.
Et je crois que c'est ça la situation intéressante de la calligraphie islamique. Elle touche quelque chose de profondément originel, et elle rejoint, disons, la main de Fatma, qui elle-même rejoint la trace de la main de l'enfant néolithique sur le mur de la caverne. Mais en même temps, la trajectoire calligraphique peut se décomposer en signes pour l'ordinateur et peut être utilisé. Et ce qui est important, c'est que c'est le même trajet, c'est le même ductus, le même trait. Donc, nous avons vu entrer en scène aujourd'hui l'homme paléolithique et l'homme de l'ordinateur, et nous avons considéré avec quelque confusion qu'en fin de compte, il avait les mêmes traits. Peut-être celui de cet homme que l'autre jour je voyais à la Mecque devant moi, en me levant, je le voyais devant moi arriver de l'autre horizon, il avait un turban orange. Alors, l'imam caché, l'homme au turban orange, l'homme de Néandertal, l'homme de l'ordinateur, en Radimov, nous découvrons tout d'un coup qu'il a les mêmes traits, et peut-être les traits de ce calligraphe musulman, assis en tailleur, bien droit, bien raide, tenant son kalam et traçant une trajectoire qui est en même temps une ligne de feu et un cristal parfaitement géométrique.
Et une musique.
Et une musique. Une danse.
Une chose m'a beaucoup frappé dans votre exposé de ce matin, qui était suivi avec beaucoup de passion et avec un silence étonnant à Fontevraud dans les rencontres que nous organisons habituellement. Vous avez employé deux fois ou trois fois peut-être le mot plénitude. Et ceci me paraît correspondre à une aspiration très profonde chez nous tous, car nous sommes très dispersés dans nos activités, nous ne retrouvons pas cette unité dont vous avez parlé beaucoup.
Là, je crois que nous jouons un thème qui est tout simplement humain, mais un thème qui est aussi fondamentalement musulman. Parce que c'est un art, et nous l'avons vu avec la calligraphie, qui n'est ni gai ni triste. Il atteint simplement un certain degré d'achèvement, qui est commun d'ailleurs à l'ouvrier analphabète et au maître domestique, et qui est, comment le qualifier, ni joie, ni peine, parce que le péché n'est pas plus que le plaisir. En eux-mêmes, séparés de leur contexte métaphysique, culturel, ne sont connus, j'ai essayé de définir par le mot plénitude. Plénitude qui signifie simplement une notion médiévale, et c'est bien le lieu à Fontevraud-Loquet, de chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est le travail honnête, parfaitement mené d'un bout à l'autre, répondant aux critères de saint Thomas d'Aquin sur la perfection, sur la beauté. Donc c'est un art, je ne dirais pas impassible, mais c'est un art, et c'est en cela qu'il est abstrait, qui dépasse les passions humaines et qui est simplement joie sur joie, comme Dieu pour l'islam est lumière sur lumière. Et ce faisant, nous trouvons un point d'insertion également de l'arabesque, du verbe et de la musique. Parce que le mot de plénitude peut s'appliquer aux trois, et en fin de compte, je parlais d'errance immobile, de recherche de soi-même qui mettrait fin aux discourses, le mot de plénitude vous a frappé. Moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que parmi les questions qui m'ont été posées, et qui ont montré qu'on allait probablement plus loin que ce que j'avais tenté d'exposer, les deux notions qui sont revenues, son notion de discordance, à ce moment-là, il n'y a plus ni Orient ni Occident. La calligraphie, comme tout art, a pour fin de terminer cette discordance, et l'autre mot qui n'a pas été prononcé mais qui était sous-jacent était celui de musicalité. C'est une espèce de justesse musicale qui est demandée aussi bien au trait calligraphique que au verbe, à la parole, à la littérature, à la poésie, aussi bien.
Ou abolition des contraintes.
Ou abolition, et c'est ça, l'abolition
des contraintes.
Et je crois que c'est le mot même qui définit l'islam. Et c'est pourquoi j'ai tellement parlé de ce tawhid, de cette unité sur laquelle reviennent tout le temps les musulmans, qui est par la sens qui est souvent mal conçu, mal expliqué, mal interprété, et qui signifie résolution des contraires, mise en état d'unité.
C'était « Sous le sceau de la calligraphie arabe » par Jérôme Peignot, avec la participation de Gérard Blanchard, Marcel Souchier et Nadjin Oudin Bamat, assistante de réalisation à l'île de Pontual. Demain, linguistique, calligraphie et lisibilité en rayon cathodique. Nous reprendrons notre émission « Les chemins de la connaissance » dès la fin des informations.
Bien petit, bonjour. Comme toujours, le marché de l'or...